Bienvenue sur Micro Standard.
Cabo la barre.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézard.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Cabo la barre.
Zona.
Rancard.
Bazar.
En raison de délires complets, de travaux mentaux, suite à un changement de louzou, nous vous proposons un traitement en HD. Profitons-en pour faire peau neuve. Oh là là, ça vole haut et ça part à volo.
Une nouvelle ère s'ouvre pour Micro Standard. À cette occasion, changement de déco, on refait le studio. En attendant, on a sélectionné la crème de la crème de nos émissions depuis 5 ans, afin de vous proposer un best-of. Bref, quand t'es pas dedans, ça veut rien dire, ce que je viens de te dire.
Docteur Emery.
L'atelier radio qui vient de se créer remplace l'atelier Comte, qui était l'une des cas de médiation des ateliers thérapeutiques artistiques. Pouvez-vous nous situer ces ateliers dont vous êtes à l'origine, dans le système des soins du centre hospitalier de Morlaix ?
Je peux essayer de donner quelques précisions sur l'origine de ces ateliers, mais il est évident que ce n'est pas moi seul qui suis à l'origine de ça, c'est tout un travail d'équipe avec des professionnels... notamment des infirmiers, et puis Martine Quéré, psychologue, qui est à l'origine de tout ce dispositif, d'une part au secteur 5 et d'autre part à Rosarscourt, lorsque cette unité existait à côté de Loquenolé. Le principe d'atelier thérapeutique et médiation créative ou artistique était déjà bien implanté et il a simplement fallu mobiliser l'énergie pour officialiser cette structure à l'extérieur de l'hôpital à la fin des années 90. Mais c'était le résultat d'une action qui était déjà en place depuis une dizaine d'années dans les différents lieux de soins du secteur 5.
Depuis combien de temps êtes-vous psychiatre et quelles évolutions avez-vous pu constater lors de votre parcours professionnel ?
Merci de me rappeler que j'approche de la fin. En effet, ça fait 30 ans que j'exerce la psychiatrie, un peu plus de 30 ans même. Et donc, on a vu passer pas mal d'évolutions, on les a accompagnées, on les a anticipées aussi parfois, et on les a regrettées aussi de temps en temps. L'hôpital de Morlaix en particulier a beaucoup évolué depuis 30 ans. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. On est passé d'un système réellement asilaire et quasi concentrationnaire avec près de 1400 malades dans tout l'hôpital psychiatrique à maintenant des secteurs très ouverts sur l'extérieur avec des alternatives à l'hospitalisation, avec des centres médico-psychologiques, des ateliers artistiques, des centres d'accueil, etc. et des structures diversifiées. Et très peu de lits d'hospitalisation. Donc ça a été sur le plan de l'organisation des soins et de l'offre de soins une véritable révolution en 30 ans. En revanche, ce qui n'a pas beaucoup été modifié, ce sont les mentalités des partenaires et les mentalités de la population qui conservent vis-à-vis de la maladie mentale de lourds préjugés. Et nous pouvons encore en percevoir les stigmates actuellement puisque des propos de plus en plus ségrégatifs sont entendu à l'encontre des malades mentaux.
Que pensez-vous du regard des médias sur certains faits de violence ?
Les médias ne sont que l'organe de celui qui veut parler à travers elles. Donc, lorsqu'il y a une communication gouvernementale sur l'autorité, sur l'enfermement, la dangerosité, les médias ne sont que simplement des serviteurs de cette parole. Et donc, voilà, les journalistes ne vont que là où on leur demande d'aller. Et à partir de là, actuellement, nous sommes bien conscients que le discours sécuritaire qui accompagne chaque fait divers tragique en psychiatrie, et il y en a, on peut pas l'escamoter, on peut pas le nier, c'est absolument une réalité malheureuse, mais une réalité. Ces faits divers sont largement relayés, comme le sont tous les autres faits divers, sans tenir compte du tout du fait que la plupart du temps, quand même, ce sont des personnes malades qui sont ou bien les acteurs, ou bien surtout les victimes. On oublie de dire, dans ces relations de faits divers, que les malades mentaux sont largement plus fréquemment victimes d'agressions, y compris d'agressions violentes et de crimes, dont des viols notamment, que les personnes ordinaires et sont largement plus souvent victimes que coupables ou acteurs de crimes. Donc il y a là deux poids deux mesures et ces deux poids deux mesures servent une politique sécuritaire.
Bonjour Catel, tu vas, je crois, nous retracer l'histoire de notre émission Micro-Standard.
Bonjour Bernard, bonjour Hervé. Oui, effectivement, autant profiter de cette émission pour vous parler, vous raconter l'histoire de notre atelier radio Micro-Standard. En fait, ce projet est largement inspiré d'expérience psychiatrique Borda, située à Buenos Aires en Argentine, qui fut la première expérience du genre dans le monde. N'oublions pas aussi de mentionner l'émission des entonnoirs dans la région de Lille. Par la parole, la radio peut aider à la thérapie. C'est en ce sens que le projet a pu être reconnu comme activité thérapeutique par l'hôpital. Pour en revenir à Morlaix, notre atelier radio a vu le jour en novembre 2009, succédant ainsi à l'atelier conte. Il s'agit de mettre en valeur l'expression orale, tout en élargissant le contenu vers la musique, l'écriture poétique, les récits, des interviews, des réflexions sur l'actualité. L'enjeu est donc de composer un contenu d'émission et un travail de création susceptible de rencontrer un public via une diffusion sur une radio locale, en l'occurrence Radio Nord-Bretagne sur 100.5 FM, effectivement aussi sur Internet depuis quelque temps maintenant. L'émission prend alors le nom de Micro-Standard. C'est à partir des centres d'intérêt de chacun, de sa curiosité intellectuelle, de sa propre histoire, de son potentiel, que peut s'élaborer une émission radiophonique dans toute sa richesse. Le produit, donc l'émission finalisée, est écoutée et approuvée par le groupe avant d'être utilisée. Au début, l'émission radiophonique était renouvelée mensuellement, mais au vu du travail qu'il fallait fournir pour une émission de 50 minutes, nous avons opté pour une émission trimestrielle. Et à ce jour, 22 émissions sont archivées sur le site de Standard. Notre façon de travailler a aussi changé au fil des années. Dans les premières émissions, on n'avait pas de thématique, chacun faisait partager son univers librement. D'ailleurs, il faudra attendre la 10e émission en février 2012 pour organiser notre émission à partir d'une thématique. Ce fut celle de la solidarité, puis suivra alors une émission sur le voyage, ce qui nous donne aussi d'autres facettes du monde radiophonique, à savoir les habillages sonores. Dans l'émission numéro 12, nous réalisons notre premier micro-trottoir. Voilà, Nous progressons et explorons avec enthousiasme de nouveaux horizons. C'est ainsi que le groupe a pu réaliser une émission spéciale Longueur d'onde à Brest, enregistrée en public lors du festival Longueur d'onde sur scène. Nos intervenants changent également chaque année. Ils nous apportent différentes façons de travailler, mais de manière générale, ils sont ouverts à nos projets et à nos attentes. Bref, beau parcours pour Micro Standard qui entame sa 6e année sur les chapeaux de roue avec une émission, la dernière en date, sur le thème du bonheur et que de projets à venir. À savoir notre voyage à Roubaix en mai prochain à la rencontre des entonnoirs que nous avions eu le privilège et le plaisir d'accueillir à Morlaix il y a 2 ans déjà. Et oui, chers auditeurs, la radio, c'est de la magie permanente. Les découvertes, les explorations nous ouvrent des portes en permanence et cela n'est qu'un début.
Qu'est-ce qu'il est collant ce type ? Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle !
Amour toujours ou amour d'un jour ?
Toujours. Oui. Amour toujours.
Amour toujours.
Amour toujours.
Et pourquoi amour toujours?
Parce que je suis amoureux depuis amour. Toujours.
C'est vrai. Depuis, toujours, depuis combien de temps?
Depuis un moment. Oh, ça fait 10 ans là.
10 ans. Oh, c'est...
Oui.
Franchement.
À 24 ans, c'est pas mal.
24
quand même.
Ans, c'est bien. C'est bien.
Alors, vous êtes plus amour d'un jour ou amour toujours?
Amour toujours.
Pourquoi amour toujours?
Bah, parce que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Je suis heureuse avec lui. Donc. Oui.
C'est plutôt pour toujours. Oui, oui, oui. Amour toujours.
Amour toujours.
Toujours.
Ça dure depuis combien de temps?
37 ans.
Oh, c'est beau, madame, c'est beau. Franchement.
Vous êtes plutôt amour d'un jour ou amour toujours?
D'un jour.
Pourquoi pas toujours?
Bon, parce que j'aime bien des différentes.
Il faut en tester plusieurs, quoi.
Amour toujours.
Vous êtes marié?
Non.
Non. Vous êtes en couple? Amour d'un jour ou amour toujours?
Amant d'un jour?
Amour d'un jour ou amour toujours?
Toujours, bien sûr.
Oui.
Toujours.
Toujours. Toujours depuis combien de temps?
Oh là, ça fait longtemps. Peut-être plus de 6 ans.
Amour toujours.
Ça fait longtemps?
Moi, ça va faire 10 ans.
Amour toujours.
Toujours, ça fait longtemps, ça, non?
Ça fait 2 ans, okay. Déjà.
J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout.
Mythique ou bal des pompiers?
Ah, mythique.
Mythique?
Oui, plutôt, oui.
Plutôt mythique.
J'ai pas besoin, si on veut, mais
bah
bon,
non, bah non.
Ce serait mythique maintenant, quoi.
Ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre.
Où est-ce que vous êtes rencontrés, vous deux?
Au boulot.
Au boulot. Oui.
Ah, travaille ensemble.
C'est beau, c'est beau.
Mythique ou bal des pompiers?
Ouais, à la rencontre.
Mythique, ouais, je sais pas, entre les deux.
Entre les deux.
Faut que je vous raconte, là, c'est
en
ça.
En boîte?
Non, non, au collège.
Ah, au collège.
C'est mignon. Hein.
Ah, c'est beau.
Aucun des deux.
Mythique.
Vous êtes rencontrés sur Mythique?
Ah non, Mythique. Ah non, non, bah les pompiers plutôt. Hein. Ah, non, non, pas Mythique. Hein. Je suis pas pour Mythique, moi. Non, non.
Mythique.
Mythique.
Vous avez déjà essayé?
Une fois juste.
Et alors?
Pas très bien.
Balle des pompiers.
Balle des pompiers?
Ouais.
Vous êtes sportif peut-être ou quelque chose comme ça?
Ouais, un petit peu.
Ouais. D'accord.
Mais comment vous vous êtes rencontré avec la personne avec qui vous êtes en couple?
Au bal des pompiers. Non, non. une soirée.
Entre amis, quoi.
Entre amis, ouais.
Voilà. Balle des pompiers ou balle des pompiers?
Pour la
rencontre. Pour la rencontre.
Mythique, enfin, mais non, mais enfin, c'était pas directement.
On
mais...
voit pas, on voit pas. On voit pas.
Mais c'est plus parce que vous êtes, vous trouvez ça bien, mythique.
Je trouve ça bien,
vous
mythique.
Êtes plutôt,
Ah non, je suis plutôt balle des pompiers, ouais. Bien sûr.
Ah, vous oui, avez non. Un sacré. Mais c'est pas mythique?
Non.
C'est sur internet, vous savez, c'est un site de rencontre où on rencontre des gens.
Ah oui, oui, le blog.
Vous préférez les rencontres tout seul, vous. Les rencontres beaucoup plus concrètes, quoi, disons-nous.
Bon, c'est bien les rencontres plus concrètes.
Plus concrètes.
Ah, oui.
Oui, oui, oui.
Balle des pompiers.
Là, je sais pas. Pour...
Vous connaissez Mythique?
Non.
C'est le site internet. C'est un site internet où on fait des rencontres.
Ah oui.
Mais vous l'avez rencontré comment, votre femme?
Au Genet d'Or, au Fouillet.
D'accord.
Balle des pompiers plus.
Balle des pompiers. Vous l'avez rencontré comment?
Sur le tchatch portable.
Ah bah donc vous êtes plutôt mythique alors. Ok.
Vous l'avez rencontré sur Mythique ?
Non ! Bon, je sais pas. Ou balle des pompiers, je sais pas.
Bah, ça dépend comment vous vous êtes rencontrés.
Bah, en boîte.
Bah, balle des pompiers, alors.
Ouais, c'est plutôt...
Mais vous le connaissiez peut-être d'avant ?
Oui, de vue.
D'accord.
Quelques fois dans la rue. Mais rien de... Voilà, juste croisé comme ça, mais okay. Rien de spécial.
Direct au lit ou on prend un verre d'abord ?
Un petit verre.
Direct au lit ou on prend un verre d'abord ?
Ah, c'est difficile, hein ?
Oh, un petit verre ?
Oui.
Un petit punch, là ?
Non, des rhum.
Ah, du rhum.
Parce que je suis cubain.
Prends un verre d'abord.
On a pris un verre d'abord. On prend un verre d'abord. Et après, on était au lit.
On prend un verre d'abord, plutôt. Ouais. À 14 ans, plutôt, ouais.
D'accord.
Ah bah là, ça dépend. Maintenant que j'ai trouvé l'homme de ma vie, là, ça se pose même plus la question de direct au lit. Direct au lit, oui, le soir, avec mon chéri, quoi, de ma vie.
D'accord. Oh, on prend un verre d'abord.
On prend un verre d'abord.
En bon breton, quoi.
Voilà, exactement.
Voilà.
Voire deux.
On prend un verre d'abord.
C'est à Jakarta que je descends de l'avion en quête de la précieuse formule « café civette », me dit-on. Mais quel est donc ce café indonésien ?
Alors, le café le plus rare et le plus cher du monde. Des crottes de civette et le café qui en résulte. Alors, grâce à ces excréments, la civette palmiste, en sachant que la civette est un animal qui fait partie de la famille des viviridés, ainsi que la genette, qui se trouve notamment en Afrique noire, qui ressemble plutôt à une fouine et qui dégage, on en fait d'ailleurs un parfum qui s'appelle le musc. Elle a une petite poche et pour marquer son territoire, elle dégage ce produit pour marquer son territoire. Donc elle est devenue la reine des plantations du café indonésien. Cet animal se nourrit de baies de café mûres, mais incapable d'en digérer les grains, il les défèque intacte. Et au moment du passage des grains dans le système digestif de la civette, une combinaison d'enzymes entraîne une réaction chimique qui donne un goût unique au café. Grâce à cette fermentation naturelle, une tasse de kopi luwak, qui veut dire kopi signifie café, et luwak désigne l'animal civette. Alors grâce à cette fermentation naturelle, une tasse de kopi luwak coûte de 20 à 25 euros dans les cafés. Un sac de 370 grammes peut quant à lui atteindre le prix exorbitant de 200 à 250 euros. La fabrication de ce café demande beaucoup de travail, essentiellement manuel. Alors, les producteurs brisent les coques de café une à une avec un mortier. Ils en séparent les grains, les rincent très soigneusement et minutieusement pour éliminer tout résidu. Ensuite, le séchage se fait soit au soleil, soit avec de l'air chaud, style ventilateur, enfin quelque chose qui amène de l'air chaud. Au niveau de la gustation du café, on distingue des notes de figue, de biscuits sablés et d'amandes. Et une fois torréfié, le kopi luwak est incroyablement acidulé.
Après 3 ans à Billy, dans le Morbihan, au CPR, je me retrouve dans un grand F2, au 3e étage, porte droite, 68 rue Laennec. Je me retrouve parachuté après un stage, exilé dans le sud Finistère. D'abord, je vis dans mes cartons. Le Peugeot Partner s'en va, alors commence Pen Sardine by Night. Après le boulot, je sors du bus. J'achète des clopes chez le buraliste que je vois de ma fenêtre à quelques kilomètres de la baie. Je sens les embruns, c'est l'hiver. L'air salé parvient à mes narines. Les vitrines sont éclairées dans les ruelles étroites. Je croise des gens mais ne reparle pas. Ce sont des silhouettes noires. La nuit suivante, nous sommes mardi. Alors je m'aventure dans les labyrinthes dont Douarnenez a le secret. Je me retrouve sur le parking du port, résidence Capitaine Cook. La mer est houleuse, les voiliers amarrés se balancent au gré du vent du nord. Je suis seul, avec la lune comme éclairage. Puis je me hasarde dans une supérette, je paye, je sors. Je me sens hardi, car les habitants sont fermés. Avec une voix qui se veut diplomatique, je demande au vieux couple, la femme en cabic et l'homme rude avec sa casquette de marine marchande, « C'est loin là, Hennec ?» L'homme me répond, « Mon pauvre vieux, c'est à l'entrée de la ville, il faut traverser Douarnenez. » Je me hâte dans l'obscurité, avec mon instinct comme radar. Une heure plus tard, je me retrouve chez mon buraliste, et commande un galopin. Mes poignets sont douloureux. Encore un effort, et je me retrouve chez moi. Je m'écroule sur mon pieu, harassé. Les semaines passent, et la fatigue se fait sentir. 4h du mat, je cuis un steak, puis l'heure tourne. À 7h, je descends les escaliers. Je croise tous les matins une fille sublime. Jupe fendue, cuir ajusté. Le mistral balaye une mèche rebelle qui dévoile des yeux noisettes, un nez mutin et une bouche écarlate. Mais 6 mois plus tard, c'est le drame. Il est jeudi soir et mon buraliste est fermé. Je me traîne péniblement chez un autre buraliste. Je paye ma cartouche de clope, puis je progresse péniblement à Intermarché. Je suis en sueur et pris de vertige. Je fais mes emplettes, puis m'écroule net à la caisse. Derrière un monsieur, coup de bol, la caissière a un brevet de secouriste. Elle demande à l'homme de m'installer en chaîne-fusil, une jambe à l'équerre, puis demande à un collègue d'appeler les pompiers. Elle reste près de moi, s'évertue à me garder éveillé et éloigne les badauds. Puis j'entends une sirène, des hommes en rouge me portent sur un brancard, je suis dans le cirage. Ironiquement, l'hôpital se trouve en face d'Intermarché. Je me retrouve aux urgences. Deux infirmiers me font une série d'examens, puis un électrocardiogramme. Le médecin demande à recommencer l'électrocardiogramme, puis demande son avis à un cardiologue. Verdict, tachycardie. Je me retrouve en cardiologie, dans une chambre. La perf dans le bras et interdiction de quitter la chambre. Je contacte ma mère qui vient me voir le lendemain et discute avec mon supérieur au téléphone. C'était en 2003, mais mon subconscient refoulait les souvenirs.
Pas de hasard, pas de cafard. Restez sur Micro Standard.
Nous voici à la communauté des chiffonniers de la joie. Nous allons rencontrer Isabelle Augès, la directrice, des bénévoles et des clients. Bonjour, Maria de Micro Standard.
Bonjour, je suis Isabelle Augès, directrice des Chiffonniers de la Joie depuis presque 5 ans. L'association Les Chiffonniers de la Joie existe depuis 25 ans, depuis 1984. Elle s'est installée sur Morlaix depuis, on va dire une petite dizaine d'années. Et c'est à ce moment-là que l'équipe d'encadrement s'est professionnalisée. Nous sommes 5 salariés actuellement. Donc il y a moi qui suis directrice et éducatrice spécialisée. Mon collègue Cédric qui est moniteur éducateur. Gilda, qui est éducateur technique spécialisé en menuiserie, Laurence qui cuisine et Fabienne qui est secrétaire comptable. Donc voilà, toute cette petite équipe aidée de bénévoles accueille des personnes en difficulté sociale et professionnelle. Donc toute personne âgée de 18 à pas d'âge peut être accueillie au Chiffonnier de la Joie en fonction de ses difficultés. Et on accueille également en convention avec le ministère de la Justice des personnes condamnées à des peines inférieures à 1 an en placement extérieur ou en bracelet électronique et également des personnes en travail d'intérêt général. Voilà, on les accueille sur divers ateliers. On va récupérer des meubles chez les gens. On les retape sur les ateliers. On les remet en vente. Et les personnes qui sont accueillies par un principe d'échange de services participent à ces ateliers-là en contrepartie de leur hébergement et de leur nourriture, et puis etc. quoi. Donc voilà à peu près ce qu'on fait.
Quelle est la capacité d'accueil et d'hébergement de la communauté ?
Alors, on peut accueillir 11 personnes sur des chambres individuelles, donc sur l'auberge qui est située dans le centre-ville de Morlaix, aux 3 routes de Paris. Donc chacun a sa chambre et peut avoir accès à une cuisine collective, un petit jardin, etc. On peut accueillir également des personnes en journée, donc ce sont des personnes qui sont retraitées ou qui n'ont pas d'emploi ou qui ont besoin de se rendre utile sur une association, de s'engager, de militer avec nous au Chiffonnier, et donc qui viennent grossir ces 10-11 personnes qui vivent au Chiffonnier. Donc on peut se retrouver sur des temps de grande vente 3 fois par an à peu près 30 personnes, et sinon au quotidien on est 15-20 personnes tous les jours ici à peu près.
Combien de temps restent les compagnons ?
Alors cela varie, ça dépend de leurs besoins, de leurs difficultés, de leur âge aussi. On va dire que les jeunes restent généralement plus longtemps. Ils peuvent rester, de 8 mois à 1 an et demi, selon leurs difficultés et puis leurs projets. Les personnes un petit peu plus âgées restent moins longtemps. On va dire qu'au bout de 8, 9 mois, 10 mois, ils sont prêts à partir et prendre un hébergement sur Morlaix ou bien aux alentours.
La mixité est-elle importante ?
La mixité, elle est indispensable. Depuis quelques années, on voit de nombreuses femmes arriver en tant que bénévoles et accueillies. Elle est importante dans le sens où elle change les modes de relation. C'est moins sur la confrontation, sur le rapport de force. Là, on se retrouve plutôt sur des relations plus douces, plus dans la négociation, dans la rencontre. Et ça vient apaiser les tensions, les moduler un petit peu et puis les varier sûrement, surtout. L'association est ouverte aux femmes, évidemment, et là, on se retrouve avec un groupe où, on va dire, presque la parité est respectée, puisque on peut accueillir jusqu'à une quinzaine de femmes entre les personnes bénévoles et puis les personnes hébergées. Il y aura un groupe total de 30 personnes, on peut dire que c'est 50-50, donc ça me plaît.
Comment définiriez-vous cet endroit ?
Alors, le Chiffonnier de la Joie, c'est déjà un lieu atypique, puisqu'on est autofinancé. C'est rare pour être souligné, puisque les associations autofinancées, autogérées comme la nôtre, moi, j'en connais pas beaucoup. Elle est atypique aussi dans le sens où j'aime à penser qu'on arrive à organiser l'association sur un mode plutôt collectif, participatif et démocratique, où la hiérarchie, elle est effacée, où elle n'existe presque pas, parce que, évidemment, dans chaque groupe, il faut quand même organiser et puis et mener et puis donner un rythme. Donc il y a des personnes qui savent mieux le faire, donc ils le font. Elle est atypique dans ce sens-là où c'est convivial, il y a un esprit aussi familial que j'aime apporter, puisque cet esprit-là correspond aux besoins de toute personne accueillie ici au Chiffonnier de la Joie, qu'il soit accueilli hébergé ou bénévole ou simple passant ou client. Donc c'est cette qualité-là et cette valeur-là que moi j'aime retrouver dans l'accueil qu'on peut réserver ici à toute personne qui passe.
Combien de personnes ont pu se réinsérer après leur passage ici ?
C'est une question difficile. Les chiffonniers existent depuis 25 ans, je disais tout à l'heure. Donc il y a environ aujourd'hui 25-30 personnes par an qui passent par les chiffonniers de la joie. Donc voilà, à vous de faire les calculs maintenant. C'est pas évident, on n'est pas des magiciens non plus. À un moment donné, quand les personnes sont là, on répond à leurs besoins, on mène avec eux leurs projets. Après, c'est aux personnes de jouer aussi.
Cédric, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as mangé jusqu'à en faire une indigestion, je crois ?
Oui. Après avoir fumé du cannabis pendant 10 ans, j'ai décidé d'arrêter d'en fumer. Le gros problème, c'est qu'il n'existe à ce jour aucun traitement de substitution pour le shit. Alors je me suis rabattu vers un autre traitement, la méthadone, le médicament de substitution à l'héroïne. Au début du traitement, j'étais aux anges. L'effet de la méthadone était puissant et cerise sur le gâteau, je n'avais plus besoin d'acheter du shit. J'étais dans ma petite bulle et je n'avais plus besoin de sortir de chez moi. Je pouvais rester à la maison pour faire tout ce que je voulais et à cette époque, ce que je voulais, c'était dormir et jouer aux jeux vidéo. Sans m'en rendre vraiment compte, je suis devenu un vrai no life. Je me levais, je prenais ma méta, j'allumais ma console et je jouais toute la journée jusqu'à tomber de fatigue. Grâce au mélange entre les jeux vidéo et l'effet puissant de la méthadone, je ne m'ennuyais jamais, même si je n'étais presque plus dans le monde réel. Ah, les jeux vidéo. Le jeu vidéo est un média jeune qui a énormément évolué depuis ses débuts. À grands coups d'évolution et de prouesses techniques, on est passé de simples jeux d'arcade en 2D comme Pac-Man à de véritables films interactifs en 3D comme la trilogie Mass Effect, poussant l'immersion du joueur à son paroxysme, la prochaine évolution étant à venir le casque de réalité virtuelle, un objet de rêve pour tous les joueurs aimant se perdre dans des mondes virtuels qui se respectent. Tout était parfait dans le meilleur des mondes, quoi. Sauf que la vraie vie finit toujours par vous rattraper. J'ai tenu ce rythme étrange pendant 3 ans, puis mon cerveau a fait une petite bulle. J'ai dû aller me faire soigner en hôpital psychiatrique. Après 3 ans passés à jouer sans bouger, le tout sous méthadone, mon corps et mon cerveau étaient à bout. J'entendais des voix et je me suis retrouvé en état de psychose aiguë. Message à tous les auditeurs, n'attendez pas 3 ans pour vous faire aider. Depuis, j'ai réussi à stopper entièrement la méthadone, je ne joue plus qu'une heure ou deux aux jeux vidéo et je revis, dans la vraie vie.
Fauteuil VIP.
L'invité de Micro Standard.
Bonjour Sophie Prévost, vous êtes journaliste au Télégramme. Vous avez accepté de nous rencontrer pour évoquer ce sujet de la rumeur et répondre aux questions de Steve.
Comment définissez-vous une rumeur dans votre travail journalistique ?
Une rumeur, pour moi, c'est un bruit, un écho, une information non vérifiée en l'occurrence, qui... bien souvent, nous parvient, nous, indirectement par les gens à qui on cause en ville, que tout un chacun peut entendre, qui a l'avantage de faire parler, qui a l'inconvénient de bien souvent être infondé. Donc, nous, journalistes, l'important, la rumeur, c'est de la vérifier.
Et quel jargon vous utilisez pour définir une rumeur ?
Il n'y a pas de jargon, une rumeur, c'est une rumeur. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Généralement, nous, quand on entend rumeur, évidemment, on va tendre l'oreille et se dire, tiens, rumeur, il n'y a pas de fumée sans feu. Rumeur peut vouloir dire information, mais méfiance. Rumeur veut aussi dire souvent chambre d'écho, grossissement. Et bien souvent, derrière la rumeur se cache des fois une petite micro-information de rien du tout qui ne vaut même pas qu'on s'y pense. Ou alors, la rumeur va être peut-être également le début d'une très grosse information, mais il faut s'en méfier.
Comment réagissez-vous face à une rumeur ?
La rumeur a toujours quand même un intérêt.
Très bien. Vous faites un travail de vérification des sources, donc ?
Ah, c'est la base de tout métier de journaliste. C'est bien pour ça qu'une rumeur, faut s'en méfier, parce que elle est pas forcément vérifiable. À partir de là, la question, on peut se la poser, nous, au sein d'une rédaction. Est-ce que cette rumeur, elle est suffisamment importante pour qu'on mène un travail d'enquête qui sera peut-être de longue haleine ? Est-ce qu'elle mérite d'ailleurs que nous-mêmes on donne de l'écho à la rumeur, parce que si on ne la vérifie pas et qu'on ne fait pas ce travail de vérification, c'est au risque de propager un bruit, et c'est pas notre travail à la base d'information, puisque toute bonne information demande à être, on appelle ça recoupée, vérifiée, Et une rumeur, par conséquent, n'est pas une information. Sauf à ce qu'elle soit recoupée, vérifiée. Et à la limite, ça n'est plus une rumeur à ce moment-là. Parce que le grand public s'y désintéressera dès lors qu'on aura pu vérifier, voire démenti une partie de la rumeur. À partir de là, généralement, c'est la fin de son histoire.
Comment une rumeur peut parvenir à la presse, aux médias ?
De par les mêmes canaux que de tout un chacun, en allant nous-mêmes, citoyens, faire notre marché, sur des reportages, faire nos courses en lisant, en écoutant, en regardant. On n'est pas différent de la moyenne, surtout en presse locale. Nos sources d'information, elles sont autour de nous. Et comme une bonne rumeur, finalement, est partagée même maintenant sur les réseaux sociaux aussi, évidemment qu'on est nous-mêmes dans la boucle... Et forcément, généralement, parmi, si pas les premiers, au moins les plus rapidement informés. Donc, on y prête forcément attention. Maintenant, je dirais, il n'y a pas 36 rumeurs dans un mois. Les vraies bonnes grandes rumeurs, on en a eu celles que je vous cite. Après, il y a rumeur et rumeur. Je peux vous en citer une autre. À ce moment-là, est-ce que ça va être... une rumeur d'intérêt notoire, j'en sais rien, mais sur le centre commercial, un des grands centres commerciaux, pour pas le nommer, de la région morlaisienne, qui est en cours de reconfiguration, des enseignes sont annoncées régulièrement, et c'est vrai que la rumeur, si on doit l'appeler comme ça, dit par moment, un tel dit, il va y avoir telle enseigne, il y aura telle enseigne de vêtements très connue, il y aura telle enseigne d'électroménager, il y aura telle... À écouter les rumeurs, on va tout avoir à Morlaix dans les 6 mois dans la galerie marchande. Je dirais qu'on le saura tôt ou tard. La vérité, c'est qu'il y a des tractations, c'est qu'il y a des noms qui sont évoqués, que ça arrive aux oreilles de tel, 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 et qu'au bout du compte, une de ces enseignes a des chances de se retrouver dans la galerie. On sera parti d'une rumeur. Maintenant, pour l'instant, en l'occurrence, j'ai cherché à vérifier auprès des différentes enseignes concernées. La réponse qu'on me fait, c'est « ce n'est pas mûr, on ne commande pas les rumeurs ». Voilà, donc ça coupe court dès lors qu'on a cette réponse-là à une quelconque publication. Enfin, si, on le publie en citant les intéressés, mais voilà, ce n'est plus une information et on passe à autre chose, quoi. Donc, je dirais que nous, on a un peu mieux à faire que passer notre temps à courir après les rumeurs, parce que d'une, elles peuvent nous entraîner bien loin pour pas grand-chose. Et de deux, on a déjà suffisamment d'informations bien réelles à traiter pour pas s'attarder sur ce que nous disent les gens aussi dans la rue. Voilà. Et les gens sont friands de rumeurs.
Nous retrouvons Sophie Prévost, journaliste Télégramme de Morlaix, pour la suite de notre interview.
Et alors, la dernière rumeur à laquelle vous avez été confrontée ?
Je dirais qu'on a essayé avant de venir de réfléchir entre nous et on s'est dit mais à Morlaix, il n'y a pas tant de rumeurs que ça et aucune qui a été digne d'intérêt. Il y a beaucoup de rumeurs d'ordre économique, justement telle boîte va fermer, si on peut parler de ce genre de rumeurs en matière effectivement à ce moment-là de vie sociale et économique. Ça interpelle les gens parce que si on croit que la boîte va fermer, c'est des emplois qui vont disparaître. Alors, on est dans un contexte très compliqué actuellement, l'économie morlaisienne qui plus est souffre. Donc, on va peut-être entendre plus souvent que d'ordinaire dire « Ah, il y a telle boîte qui va fermer, telle boîte va délocaliser ». Alors, c'est vrai, il y en a qui, l'agroalimentaire souffre, qui souffre vraiment, dont on sait que ça peut devenir une réalité. Il y en a d'autres, c'est des serpents de mer. Tout n'est pas fondé, c'est là où il y a danger. Pour qu'il y ait une rumeur qui dure, il faut encore qu'elle soit bonne, entre guillemets aussi. Et je vous avouerai qu'à Morlaix, il n'y en a pas eu tant que ça. Non, pas récemment, sincèrement. Je vais vous décevoir.
Et vous avez déjà été victime d'une rumeur ?
Même pas.
Non.
Pareil, je ne suis pas Julie Gaillet, donc pas d'intérêt pour le grand public. Même pas. Il y a aussi que la rumeur, elle peut nous arriver des semaines, des mois après aussi aux oreilles. Et quand on essaie de vérifier, on se rend compte que ce sont des faits très anciens. Alors nous, on travaille en quotidien, donc on n'a pas intérêt non plus à réalimenter des pseudo-informations. Après l'été, c'est vrai qu'on a... On a quand même un littoral prisé par les Parisiens et par quelques vedettes. Et pour le coup, je dirais qu'il y a peut-être eu cette rumeur. C'était même pas de l'ordre de l'impossible, puisqu'on a sur l'Okirec notamment régulièrement célébrités du cinéma ou de la politique qui passent. Le Grand Hôtel des Bains est réputé pour accueillir des gens de milieux, on va dire, prisés, mais sans en faire grande publicité. Nous, on pourrait y avoir accès si on passait notre vie à faire le siège du Grand Hôtel des Bains, nuit et jour. On a un peu de choses à faire, quoi. Alors, c'est vrai, par contre, que si on a en temps réel soit la photo, si ça avait été Johnny à l'Hôtel des Bains, hein, en train de déjeuner ou de se balader sur le littoral, on la prendrait, bien évidemment. Hein. Mais bon, là, on n'est plus dans le cadre de la rumeur, ça serait une réalité. Là, ce genre de rumeur, c'est assez simple, en fait. C'est les moins compliqués à vérifier. Parce que si ça va se passer sur un territoire identifié, en l'occurrence, nous, on a quand même une implantation très fine sur les différentes zones. On a des correspondants locaux aussi. Et eux savent tout de suite quand même vers qui se diriger. Savent à peu près aussi quelles sont les vedettes qui ont, par exemple, une maison. Certains ont un pied-à-terre. Hein, donc, si c'est de l'ordre du probable ou pas. Et après, ils iront un peu à la pêche pour voir... avec des canaux qui sont là très très rapprochés sur de la vie ultra locale, ils seront pas longs à démêler le faux du vrai quand même. Donc je dirais que si ces rumeurs là, elles sont de très courte durée. Généralement, pour le coup, sur une saison estivale où on entend ce genre de choses, on va essayer de la vérifier dans les deux jours, et moins de deux jours, même du jour au lendemain, on doit être capable d'avoir rebondi et puis informer si c'est une info au contraire tordu le cou à la rumeur. Voilà. C'est vrai que nous, la rumeur, c'est pas un fondamental qui nous guide au quotidien, hein, au contraire. Maintenant, ça fait peur à ceux qui en sont victimes. Et là justement, on sera parfois jugé ou responsable, ou à l'inverse, pas assez actif parce qu'on n'aura pas investigué sur la rumeur. Mais c'est pas le cœur de notre métier de journaliste, hein, de traquer la rumeur. La rumeur, je crois qu'elle est presque plus active entre les gens que dans le journal. Même si tout ça peut s'imbriquer par moments. Hein. Mais il y a plein de petites rumeurs dont on n'est nous jamais au courant. Hein. La rumeur, c'est quand une information ou une non-information se partage à 1, 10 ou 100 vecteurs, c'est au-delà d'un certain nombre de vecteurs, ça devient une rumeur. Nous, on n'est pas à la recherche de rumeurs, on est à la recherche d'informations. Une bonne information, elle peut ne encore être partagée par personne. Voilà, ou 2 ou 10. Nous, à partir du moment où on a identifié que c'est une information, on va aller la vérifier et on estime qu'elle peut valoir d'être diffusée et de concerner tout le monde. La rumeur, elle peut déjà... des fois ou avant. Elle peut exister avant l'information, parce qu'une rumeur peut partir d'un commérage de voisinage, de palier. Hein, et elle peut être partagée par 200 personnes et n'avoir aucun intérêt.
We'll be right back.
Puisque la science ne couronne pas de succès mes recherches, je tente ma chance auprès d'un poète italien prénommé Giacomo. Peut-être que l'imaginaire me guidera vers la quête de ma formule. Allora, buongiorno Giacomo.
Buongiorno, professore. Ça a trouvé autour d'un bon café. Se réunir gusto pour parler. Boire ce mélange subtil qui vient de nos chères îles. Un café ristretto autour d'une table. Un café leggero, l'amo vénérable. On a découvert l'América, on a traversé l'Africa pour un café prezioso, un café en amoureux de ma grand-mère ou Jacques Vabre pour la cuillère ou le marquetade. Caféina, quand tu nous tiens, on est tous des drogués sans lendemain. Avec un café, on pète le feu. Comme un gelato avec des dieux, avec souffrance comme les envieux, un piccolo café peut sauver vie. Une petite tasse, on ne dort pas la notte. La cafetière fait un bout de bizarro. Faire une bonne arabica est tout un art. Comme une voyante qui lit dans le mar. Les Brésiliens commencent à en avoir marre de se lever quand il fait fanero. Et ciao, professore.
Ma grazie mille, Giacomo.
Et voici l'horoscope de votre été.
Bélier, c'est l'été, prenez votre pied.
Taureau, qu'il fait chaud, faites le beau.
Gémeaux, sortez vos maillots et tous à l'eau.
Cancer, ne rien faire, changez d'air.
Lion, grande marée en vue, gare au tourbillon.
Vierge, balade romantique sur la berge et exit la gamberge.
Scorpion, attention à Cupidon. À consommer sans modération.
Sagittaire, pour vous changer les idées, prenez l'air.
Capricorne, vous avez le vent en poupe, gardez le cap, le cap horne.
Verseau, protégez votre peau et vos beaux pectoraux des petits bobos.
Poisson, soyez dans le ton, mordez à l'hameçon.
Ah hey, ma largeuse, j'ai fini par trouver. Maintenant, je garde le sens de ma formule, car je ne suis pas fou, vous savez.
La quête du professeur Michael prend fin après ce tour du monde odorant. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.stand-art au pluriel.org.
Bon les gars, il n'y a qu'à démarrer le chantier de la nouvelle radio. Allez, on va.
Oh là là, je la case où ma nouvelle chronique?
Je la mets où ma nouvelle table de mixage?
Karine, t'endors pas sur ta perceuse.
Cédric, t'as fait quoi du nouveau micro?
Attends, Katel, avant de mettre ton manteau, il y a du boulot.
Arrête Sylvie avec ton générique, il est dépassé. Les agents de la radio en ont fait un autre.
Et Michel, tu sens qu'on est prêt là?
Bah de toute façon, faudra bien. La prochaine émission, c'est le 7 juin.
Mais non, c'est le 4 juin et sur RMB.